Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce 4e numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Bienvenue sur les ondes de Radio Évasion afin d'explorer un thème difficile aujourd'hui, un thème récurrent, hélas, dans tous les pays, sous toutes les latitudes, les violences faites aux femmes. Comme à chaque fois, nous allons nous appuyer sur un livre et pour cette émission, ce sera un roman, un premier roman même, presque un roman noir qui a pour cadre l'Inde et un procès tout à fait hors norme. L'Inde, où une femme est violée toutes les 20 minutes, la plus jeune à 3 mois, la plus âgée 90 ans, c'est véritablement un désastre. Ce récit polyphonique aux multiples rebondissements, superbement écrit et abondamment documenté, s'intitule « La voix de Sita » et est publié par les éditions Globe et son autrice Cléa Chakraverty nous fait l'amitié de passer cette heure en notre compagnie. Bonjour Cléa.
Bonjour.
Alors, quel
Merci
a été.
Beaucoup.
Ah, mais c'est un plaisir. Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d'écrire cette histoire?
Alors, il y en a plusieurs. Le premier vraiment moment pour moi qui a été vraiment important, c'est ce crime atroce, le viol d'une jeune femme dans un bus à New Delhi en 2012, à qui on a donné un surnom en fait de combattante, Nirbhaya, qu'on peut traduire par l'intrépide. C'est arrivé donc en l'hiver 2012. Moi, j'étais en Inde à cette époque-là, donc pas à Delhi, mais à Bombay, Mumbai. Cela faisait déjà plusieurs années que je vivais en Inde et que j'ai été, comme beaucoup d'autres femmes, indiennes ou non d'ailleurs, confrontée à du harcèlement, des agressions quasi quotidiennes en tant que femme. Et c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de façon très concrète pour beaucoup de femmes, d'ailleurs en Inde aussi, hein, ça a été le cas. C'est une affaire qui a été très médiatisée également à l'international et qui a suscité chez moi l'envie d'aller plus loin dans la réflexion, de comprendre voilà, à quel point, comment en fait cette violence était inscrite dans le pays, par quel biais, pourquoi elle était systémique et aussi présente, et comment elle affectait finalement l'ensemble de la population.
Et les autorités avaient beaucoup promis à cette époque-là. Il y avait une idée de lutter effectivement contre ce fléau, mais il y a absolument rien qui a été tenu.
En fait, il y a eu des choses effectivement qui ont été promises. Alors, dans le cadre de cette affaire-là, la justice a été extrêmement rapide par rapport à d'autres affaires pourtant tout aussi atroces, tout aussi médiatisées à l'intérieur du pays. Là, l'écho international et je pense la prise de conscience, les non-manifestations, mais aussi l'horreur médiatisée encore une fois a poussé certains responsables politiques et associatifs et publics à agir rapidement. Donc, l'enquête n'a pas été bâclée pour une fois. Elle a suivi son cours de façon extrêmement rapide. Les personnes ont été arrêtées et ont été jugées assez rapidement, pendues ensuite, puisque la peine de mort est encore en vigueur en Inde. Mais c'est vrai que sur le reste, c'est-à-dire sur la pensée, en tout cas l'idée que les femmes sont des commodités et des biens de consommation comme d'autres, dans un système patriarcal ancien, mais qui est très insidieux dans tous les domaines de la vie quotidienne. Cette dynamique-là a assez peu bougé, en dépit par ailleurs du fait qu'il y ait aussi, il faut le dire, hein, des organisations féministes qui existent, qui luttent et qui ne remontent pas à 2012, bien au contraire, qui sont plus anciennes, mais qui sont assez disparates aussi. Donc il y a des choses qui se font, mais c'est vrai qu'au niveau de politique publique, on reste un peu sur notre faim. Des affaires tout aussi terribles continuent de d'émailler les journaux et la presse de façon assez quotidienne.
Donc le roman, La Voix de Sita, s'ouvre. Il y a un débat entre un yogi, qui est ce qu'on appellerait intégriste, hein, ici, et la secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Et il y a un avocat qui n'est pas un ténor du barreau, mais enfin, ce n'est pas non plus le dernier des derniers, qui s'appelle Madhu Chandra Dev Singh, qui, disons, un avocat de seconde zone qui a une idée un peu dingue. Quelle est cette idée un peu folle et iconoclaste?
Alors, Madhu, c'est un avocat qui, est plutôt quelqu'un qui vient de, on va dire, la classe moyenne, un peu petite bourgeoise, on va dire, du nord du pays, qui cherche, en fait, à dépasser un peu sa condition. Il est attiré par les lumières des médias. Il a envie de faire un coup, il a envie de faire un buzz. Il a envie aussi d'être respecté dans sa profession. Et voilà, il a envie un peu, pas forcément par le travail d'ailleurs, il a envie de faire un coup d'éclat. Et il assiste à ce débat télévisé entre ce yogi, ce fanatique qui est un moine religieux hindou, mais aussi un politicien, et cette ministre qui ne réussit pas vraiment à s'imposer dans le débat sur la question des féminicides et du viol, enfin de la culture du viol en Inde. Donc Madhu, il est un peu atterré par le niveau de ce débat. Puis il se dit finalement, en réfléchissant, il pense à sa propre enfance, il pense à son vécu, il pense aussi à ce que lui dit sa femme, à sa jeune épouse régulièrement. Il se dit, j'ai peut-être un coup à faire. Et lui-même vient de la ville d'un personnage mythique en Inde qui est comme une demi-déesse. Qui est l'héroïne Sita, qui est une héroïne très importante dans l'épopée du Ramayana, qui est un mythe indien vraiment inscrit au cœur de la culture indienne, populaire et savante. Et comme il vient de cette ville, Madhu, il se dit, tiens, et si moi je me faisais le défenseur de cette quasi-déesse et que j'utilisais ce mythe pour finalement incriminer les personnages masculins du mythe, en particulier Ram.
Oui, parce que il faut dire que pendant ce débat, le yogi justifie pratiquement le viol en disant que les femmes sont responsables de ce qui se passe parce qu'elles ne suivent rien, respectent plus la tradition, elles sortent, elles s'habillent n'importe comment, enfin, etc. Ce qu'on entend un peu partout, même en France.
Oui, absolument. Et Madhu, il a envie de prendre un peu le contre-pied de ces affirmations-là. Il faut dire qu'en Inde, il y a cette culture, en tout cas ce culte de certains, pas tous bien sûr, mais voué à la femme sacrificielle, à cette idée qu'une femme doit être dévouée à son époux et aussi à la société d'une certaine façon, donc obéir en fait aux normes sociales qui lui sont échues. Et Madhu décide de s'en prendre à ce mythe, de s'en prendre à ces mythes, ou en tout cas cette interprétation-là du mythe, et donc de déposer plainte contre Ram, qui est considéré comme un dieu vivant.
Et il se sent un petit peu léger, Madhu, quand même, parce que ce n'est pas forcément son quotidien. Et donc, il va faire appel à une femme qui s'appelle Zulfia Wallace, qui est américaine, qui est anthropologue, qui en plus, elle a tout par rapport au yogi. Là, elle est homosexuelle, elle est mariée à Jasmine, qui est une femme qui habite en France, qui est universitaire et donc qui est déjà en Inde et où il se passe pas mal de choses. Il y a par exemple à l'université au département d'anthropologie de Mumbai, il y a deux économistes et une sociologue qui sont licenciées pour atteinte aux intérêts de la nation parce qu'elles ont fait des publications sur le chômage et la condition de vie des femmes. Et donc il va faire appel à cette femme pour l'aider, parce que pour s'y retrouver dans l'histoire des dieux et des déesses indiennes, c'est pas si simple que ça.
Oui, oui, absolument. Madhu, c'est vrai qu'il est léger, il est pas très au fait en fait de certains points de sa propre culture, mais comme ça peut arriver à tout le monde. Et surtout, il a besoin de comprendre un petit peu plus comment il peut appuyer son réquisitoire, puisque donc il se lance dans un procès contre Dieu, donc ce qui n'est clairement pas très courant même pour l'Inde, où il y a parfois ce type de choses très farfelues qui existe. Alors, juste pour préciser, Madhu, il existe vraiment. C'est un avocat qui a vraiment intenté ce procès contre Ram en 2017.
Et il a vraiment été au commissariat porter plainte.
Oui, alors pas au commissariat, mais chez le juge, faire une pétition au civil qui a été examinée, donc qui a quand même été reçue, puis à laquelle dans la vraie vie, ça n'a pas donné suite, mais il a vraiment fait un acte public, il a publicisé son geste, mais donc ça a été un moment médiatique assez cocasse à ce moment-là dans le pays. Donc il a vraiment existé et par ailleurs, donc en faisant recours à cet universitaire, ça, pour moi c'était aussi une façon de mettre en lumière d'une part l'ingéniosité, on va dire, qui existe autour des mythes, toute la complexité des mythes, mais aussi de rappeler que ces universitaires-là, comme Zulfia Wallace, qui est inventée bien sûr, sont aussi en danger. C'est-à-dire que remettre en cause un discours nationaliste, en tout cas un discours hégémonique, comme c'est ce que font Madou et Zulfia finalement, en s'emparant des mythes et en les explicitant et en montrant que plusieurs interprétations sont possibles, que les mythes et les histoires qu'on se raconte ont parfois et très souvent d'ailleurs des portées politiques, c'est aussi de rappeler que des universitaires comme Zulfia sont aujourd'hui en prison ou assignés à résidence ou justement qualifiés d'être antinationaux. Les cas que vous citez là de l'économie, des économistes et du sociologue, ce sont des cas réels de personnes qui ont été soit démis de leurs fonctions, soit très 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 poussé, incité en tout cas à démissionner parce que voilà, les résultats de leurs enquêtes ou la pensée académique n'allaient pas dans le sens du gouvernement, par exemple.
Et donc aussitôt, Madou, que ce soit Madou ou Zulfia, tous les deux risquent leur vie parce qu'ils sont attaqués sur les réseaux sociaux. Il y a une armée de trolls qui leur tombe dessus. Ils sont directement remettre en cause le dieu Ram. Et donc la démarche de Madou n'est pas idiote en disant, puisque le dieu Ram se comportait mal avec sa femme Sita, c'est lui qui donne l'exemple et il a donc incite les hommes à mal se conduire avec les femmes indiennes. Donc sa démarche est tout à fait, on peut la recevoir et il risque directement sa vie et celle de tous ceux qui lui sont chers.
Oui, c'est un sujet en plus qui est très sensible en Inde, la place du dieu Ram et notamment le Ramayana, qui agite beaucoup ce qu'on appelle en hindi les bhakts, donc l'équivalent des trolls en fait, mais des trolls qui sont partie prenante d'un discours idéologique ultranationaliste et fondamentaliste hindou, qui n'est, il faut le répéter peut-être, pas du tout l'hindouisme hein, tel qu'on peut le connaître en Occident, mais qui est vraiment une interprétation très politique et vraiment encore une fois intégriste d'un certain type d'hindouisme et qui place dans ce discours fondamentaliste, qui place le dieu Ram vraiment comme une entité divine intouchable et que toute critique amène à la question de blasphème. Il faut savoir que c'est une divinité qui a été très instrumentalisée et qui est encore aujourd'hui très instrumentalisée par le politique. Par exemple, il y a le cas le plus emblématique, c'est un soi-disant temple de Ram, en tout cas lieu de naissance de Ram, qui se trouve donc dans le pays, dans le nord du pays, et qui, en raison d'une certaine mythologie ou en tout cas interprétation des faits, a donné lieu en fait à la destruction d'une mosquée en 92 qui était là en fait, et qui toujours aujourd'hui suscite un débat politique très important. Et pour rappeler les faits, en 92, la destruction de cette mosquée, donc Babri Masjid, le 6 décembre 92, a donné lieu à des pogroms avec énormément de morts, alors certes d'un côté et de l'autre, mais principalement des morts chez les minorités musulmanes, et qui continue en fait à créer des crispations, des tensions. Et aujourd'hui, au nom de ce dieu Ram, certains fondamentalistes hindous vont aller détruire des lieux d'autres minorités ou inciter en fait les minorités à faire de la place pour cette divinité-là, et donc à exercer finalement un pouvoir tout à fait politique au nom, encore une fois, de la religion. Et donc c'est en s'attaquant vraiment à ce personnage fort et emblématique politique que Madou et Zulfia prennent énormément de risques, mais au même titre en fait qu'aujourd'hui les militants indiens prennent des risques en fait.
Oui, mais on est en Inde, donc il y a des hindous, il y a des jains, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, et tout, je suppose que les maltraitances faites aux femmes ne sont pas faites que des hindous.
Bien sûr, c'est malheureusement, je sais pas, ou heureusement, je sais pas quelle formule choisir.
Ça doit être
universel, en fait, ce serait peut-être.
Ouais.
Voilà, ce serait un peu au sein de disqualifier une communauté par rapport à une autre. Non, bien sûr. Dans le roman, j'ai choisi d'illustrer ces violences par le prisme d'un mythe, effectivement, qui est très connu dans les communautés hindoues. Mais c'est un mythe, en fait, par exemple, et spécifiquement le Ramayana, c'est un mythe qui dépasse, en fait, le cadre religieux hindou, puisque c'est un mythe qui est aussi très connu chez les bouddhistes, chez les musulmans. Enfin, voilà, quand on est indien, ce n'est pas possible, quelle que soit sa communauté ou sa confession d'appartenance, de ne pas connaître ce mythe, ne serait-ce que dans les grandes lignes. Et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, parce qu'il permet de comprendre, en fait, certains récits ou la façon dont l'idée puisse se faire d'une société. Et bien sûr, ces violences, elles sont partout, elles sont souvent perpétuées au nom de la tradition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, tradition musulmane, tradition chrétienne, même chez les Jains par exemple, où les femmes sont soumises à certaines règles très strictes. Donc c'est une communauté qui suit des règles de vie particulièrement strictes, d'austérité, de retenue. Mais chez les femmes, c'est encore plus prononcé. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment plus de questionner en fait le rôle et le poids de la tradition et de la entre guillemets culture et son instrumentalisation par le sociétal et le politique.
Oui, ça c'est sûr que si on commence à faire des procès odieux par rapport à maltraitance faite aux femmes, il y a l'association de malfaiteurs, hein, qui soit n'importe quel continent, n'importe quelle religion, de toute façon à chaque fois qu'il y en a une qui doit prendre, c'est une femme. Il y a pas photo. Donc on va faire une première pause musicale avec un groupe indien, qui est un groupe de métal indien. Et il y a un joli jeu de mots qui s'appelle Bloody Wood. Et le titre, c'est Machi Basad. Enfin, j'espère que c'est la bonne prononciation. Deuxième partie de Bien au contraire, toujours avec Cléa Chakraverty, toujours avec la voix de Sita et sur le douloureux sujet des violences faites aux femmes en Inde, particulièrement avec le texte à partir du Ramayana, de ce texte fondateur, et que Modu, un avocat, attaque en justice. Donc il y a une deuxième histoire dans l'histoire, où là c'est un petit peu plus une fable, où Zulfia Wallace, donc l'américaine anthropologue dont on a parlé, accompagne un groupe de Bowl. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, tout à fait.
Qui sont un petit peu des troubadours. Sont des gens qui vont de village en village et qui proposent des spectacles contre de la nourriture, contre un petit peu d'argent. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a deux femmes. Il y a Didyma, qui est un peu plus âgée. Et elle protège une jeune un petit peu handicapée qui s'appelle Sati. Et qui tout d'un coup, Sati va poursuivre son chemin, va disparaître, et ça prend une grande dimension dans le roman.
Oui, ce sont deux personnages un petit peu singuliers. Donc les Baoul, il faut savoir que ce sont des communautés qui sont plutôt originaires du Bengale, enfin du Bengale au sens large, donc Bengale en Inde, mais aussi côté Bangladesh aujourd'hui, et qui sont des communautés un peu mystiques, plutôt donc troubadours comme tu l'as dit, mais aussi des poètes, des musiciens et qui chantent. C'est aussi des chansons folkloriques, donc c'est beaucoup de choses différentes et qui effectivement sont plutôt itinérants. Et dans cette communauté, j'ai imaginé ce personnage de Didyma qui a recueilli une orpheline qui est muette, donc qui ne chante pas, mais qui lui permet de grappiller quelques sous par-ci par-là, qui joue un peu de musique aussi. Et cette orpheline est donc adolescente dans le récit. Et puis un jour, elle est saisie par la voix de Sita, par cette voix qui sort d'elle en fait, et qui est très étrange puisqu'elle ne peut pas normalement parler. Et cette voix qui commence à raconter des contes, ou en tout cas qui commence à raconter l'histoire du point de vue de Sita, l'histoire du Ramayana, l'histoire des femmes aussi, du point de vue de Sita. Et cette jeune adolescente, donc Sati, commence à prendre une position un peu différente dans sa relation avec sa protectrice et la troupe. Et elle commence à être aussi consultée par les femmes qu'elle rencontre dans les villages et qui sont elles-mêmes attirées en fait par cette voix très étrange, ce phénomène de possession comme il y en a d'ailleurs beaucoup aussi en Inde, et qui cherche finalement une forme de consolation auprès d'elle.
Et elle va devenir une sorte d'oracle. Et c'est pas par hasard si elle s'appelle Sati, qui est un anagramme de Sita. Et tout d'un coup, elle va prendre une dimension comme une icône de la résistance.
Elle prend cette dimension un peu malgré elle, c'est-à-dire qu'elle n'a rien choisi.
Ah non, non.
Elle subit un peu ce phénomène de possession, mais effectivement, à travers elle, Sita s'exprime et incite les femmes à reprendre le pouvoir, en fait, à reprendre pied dans leur vie quotidienne, à s'allier aussi, à déconstruire d'une certaine façon les récits qu'on leur fait depuis qu'elles sont nées, qu'elles ne sont pas obligées d'être des femmes sacrificielles, dévouées, entièrement tournées vers leur famille, leurs époux, leurs enfants. Et c'est un peu ces récits-là qu'entendent les femmes à travers Sati. Et Sati est poussée par la voix à... Voilà, je ne vais pas tout révéler, mais...
Non, surtout pas.
Voilà, à suivre son destin, on va dire. Et
ouais.
On comprend à la fin le lien entre elles.
Et alors, ça, c'est pour l'Inde traditionnelle. Hein, c'est pour l'Inde mystique, traditionnelle, telle qu'on la voit, les babas et tout, etc., avec les trans mystiques, etc. Mais il y a un côté tout à fait moderne dans le roman, avec Miss Fantastique. Et Miss Fantastique, c'est une mine de renseignements sur le sort effectif des femmes, parce que Miss Fantastique, elle tient un compte Instagram, et où, mine de rien... au début, on a l'impression que c'est une influenceuse. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, elle donne des chiffres absolument glaçants sur le sort des femmes en Inde.
Oui, Miss Fantastic, c'est un peu le pendant effectivement très contemporain de certaines de ces influenceuses qui existent et c'est aussi une façon pour moi, c'était une façon pour moi aussi de leur rendre hommage, qui sous couvert de posts très artificiels. Alors moi, je me suis beaucoup inspirée de certaines youtubeuses d'origine afghane par exemple ou iranienne qui ont fait ça, qui utilisent une vidéo ou un post complètement superficiel sur une crème de beauté ou sur une technique de maquillage pour glisser des appels à la révolution. Elles sont peut-être pas légion, mais il y en a. Il faut savoir qu'elles existent et qu'elles font finalement comme elles peuvent acte politique en faisant ça. Et Miss Fantastic, pour moi, elle est vraiment complètement là-dedans et donc elle utilise finalement son influence hein, et son réseau, sa communauté, ses followers pour distiller des informations, des faits qui sont tous réels, c'est-à-dire que les chiffres qu'elle donne sont des chiffres véritables, documentés sur la condition des femmes en Inde, donc que ce soit viol, que ce soit le non accès à l'emploi, suicide, exactement, violence intrafamiliale. Violence politique, cyberharcèlement, etc., etc.
Le poids économique, à savoir que 83% des travaux agricoles en Inde sont faits par les femmes, alors qu'elles n'ont que 30% des terres. Enfin, c'est absolument abominable de lire ça. Et il faut, ne serait-ce que... en mettant de côté des histoires, Miss Fantastic, c'est vraiment une trouvaille géniale.
Merci.
Ah, mais c'est génial parce que tous les 50-60 pages, on a une story de Miss Fantastic qui donne des chiffres glaçants.
Ce qui permet de comprendre aussi le contexte dans lequel ces femmes, toutes les femmes dont je parle dans le roman, sont inscrites.
Oui, aussi. Donc, on va contextualiser un peu là avec ce cher yogi intégriste qui s'appelle Abhinav. Et donc qui justifie les viols par le non-respect de la tradition, enfin bref, c'est de la faute des femmes. Et il a un mouvement à lui, qui c'est un mouvement suprémaciste hindou qui s'appelle la véritable armée de Ram, la VAR, et comme par hasard et il a un discours qui moi m'a fait dommage, mais ça m'a fait presque rire quoi, parce que c'est ce que j'entends à la télé en France. Il a un discours contre la pensée unique. Il justifie les licenciements à la faculté. Il raconte que ce sont les musulmans qui s'attaquent aux femmes et pas les hindous. Enfin, bref, il a un discours de fasciste de base occidentale.
Alors, Yogi, il concentre un peu, il est quasiment caricatural d'une certaine façon. Son personnage concentre en fait. Le pire qu'on pourrait trouver chez les fanatiques religieux, j'ai envie de dire presque de tous les pays, le pire, c'est que ce yogi, il existe en vrai, en Inde, et c'est un politicien aujourd'hui d'un état très important dans le pays, d'un état très connu au nord de l'Inde. Et que voilà, certaines des citations qui sont faites dans le récit sont des citations réelles de cette personnalité politique dans la vraie vie. Et en fait, il d'une certaine façon, il a ce discours-là. Donc, d'une part, parce qu'il peut l'avoir. On est dans un contexte idéologique en Inde où il y a une vraie polarisation, une vraie montée en puissance du communautarisme. Donc, hindou contre musulman, musulman contre hindou contre sikh, sikh contre bouddhiste, chrétien contre musulman. Enfin voilà, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui est quand même assez particulier. Et la VAR, là encore, c'est une transposition fictionnelle, mais de groupuscules existants. Donc il y a vraiment des groupuscules qui défendent Ram comme entité toute puissante et sur laquelle on ne peut pas, encore une fois, ni blasphémer ni critiquer. Et ce qui est assez, d'une certaine façon amusante, c'est qu'il condamne la pensée unique En fait, ce qu'il condamne, c'est toute critique sur son idéologie à lui. Oui. Et tu as raison quand tu parles de fascisme, parce qu'en fait, Yogi, que ce soit le personnage de fiction ou le personnage réel, sont des personnalités, des idéologues, en fait, qui ont grandi et qui ont été façonnés par une idéologie très, très clairement inspirée du nazisme, en fait, des jeunesses hitlériennes, par exemple, qui ont même... voilà, qui ont vraiment participé à ces courants-là de pensée suprémaciste, avec cette idée de pureté, cette idée de ne pas accepter le poids politique ou enfin le poids même tout court d'autres minorités ou des communautés qui viendraient contraindre leur grand projet d'organisation parfaite d'un État. Voilà, autour de enfin certains principes, donc pas de mariage mixte par exemple, ou bien une seule religion pour un seul pays, l'idée qu'il y a des races, hein, on va le dire comme ça, plus on va dire, alors même si tu sais pas forcément ce terme là aujourd'hui,
mais de certaines... Une hiérarchie,
voilà, qui est à la fois sociale et qui est ordonnée aussi sur le système de la caste, pour ce qui est le cas de l'Inde. Donc voilà, ce sont des idéologies qui sont toujours très vivaces en Inde aujourd'hui, alors à plusieurs degrés différents, mais c'est aussi une idéologie donc qu'on appelle l'Hindutva, donc l'idéologie suprémaciste hindoue, qui est derrière, qui a nourri aussi les hauts cadres du parti au pouvoir actuellement.
Narendra Modi, par exemple.
Exactement, dont le premier ministre a été donc dans cette a été formé par ces idéologues qui s'appellent, on peut le nommer, hein, le courant idéologique s'appelle RSS, et donc ce sont des courants de pensée qui sont extrêmement puissants aujourd'hui et qui se déclinent justement à travers des groupuscules comme celui qui existe dans le roman qui s'appelle L'Avare, et qui donc s'attaque à toute critique, qui s'attaque à on va dire à ce que eux appellent l'idéologie occidentale, qui ne veut absolument rien dire, mais voilà, qui vont condamner tout apport de la pensée occidentale, qui vont utiliser l'idée du postcolonial en disant par exemple, mais nous aujourd'hui en Inde, on est libérés des pensées occidentales parce que c'est du colonialisme, donc certes, mais par ailleurs, est-ce que cela signifie condamner toute critique sur la religion, toute critique sur des politiques publiques, condamner toute critique même du gouvernement et disqualifier ceux qui vous attaquent en disant qu'on les accuse tout simplement de haute trahison, puisque c'est...
Je crois que la religion est plus un prétexte là que véritablement un problème philosophique ou dogmatique.
Complètement.
Et c'est pas pour rien que Narendra Modi, le premier ministre indien, est particulièrement copain avec Netanyahou en Israël, parce qu'ils ont exactement le même système d'apartheid entre des citoyens et des sous-citoyens.
C'est le concept de ce que plusieurs chercheurs appellent l'ethno-nationalisme, en fait. C'est de fonder une nation sur une ethnie supérieure aux autres, ou en tout cas avec des traits culturels communs, et de vraiment disqualifier toutes les autres, en fait, de façon assez, assez simple.
Oui, et il y a le système des castes, en plus, ne l'oublions pas, en Inde, et les femmes des castes inférieures sont encore plus sujettes à être victimes d'attaques que les autres. Quand on prend 16% des femmes indiennes sont des Dalits, c'est la caste la plus basse, je crois, et il y a 10 femmes et fillettes Dalits qui sont violées chaque jour. Donc, et dans 90% des cas, les agresseurs sont des individus de caste supérieure. Donc, il y a encore presque un système d'esclavagisme.
Il y a l'idée, encore une fois, que les femmes sont des commodités et sont des individus. Ce ne sont plus des individus, mais sont vraiment des objets d'exploitation. Et encore plus, à partir du moment où elles sont à disposition... Donc, quand elles sont d'extraction, on va dire, sociale très basse, que ce soit des femmes issues des tribus, ou donc des Dalits, donc des considérés comme des hors-castes, hein, pour faire simple, ce qu'on appelle autrefois des intouchables, donc des communautés qui sont fragilisées à tous les niveaux, économiquement, socialement, politiquement, qui n'ont aucune possibilité de se défendre. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a aujourd'hui des organisations puissantes d'Dalits, mais dans certains villages, ce sont ces femmes-là qui vont être ciblées en premier. C'est aussi une façon, ces viols sur ces femmes sont aussi souvent des viols punitifs, parce que un mari, un cousin, un frère a pu mal regarder quelqu'un d'une autre caste, ou lui a manqué de respect, ou un deal ne s'est pas fait ou à oser demander une position auquel il n'est pas censé, qu'il n'est pas censé avoir, ce sont les femmes qui vont être utilisées, instrumentalisées dans la vengeance ou en tout cas comme punition. On pourrait penser que ce sont des pratiques moyenâgeuses, mais à tort en fait, puisque c'est des choses qui continuent d'arriver assez régulièrement et qu'on voit dans les journaux indiens, qui défrayent malheureusement pas la chronique, tellement c'est devenu monnaie courante.
Oui, il y a un grave problème qui va se créer, c'est un problème démographique qui est souligné justement par Miss Fantastique dans le roman, c'est qu'il y a un manque de 45 millions de femmes, c'est-à-dire qu'à peu près la nature est bien faite, on est à peu près à 50-50, 50% de femmes, 50% d'hommes, c'est comme ça, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de travailler. Et le problème des échographies, c'est que ça permet de faire de l'eugénisme de genre, et donc d'éliminer les fœtus féminins. Et donc ça crée plusieurs problèmes, comme par exemple l'achat au Bengale voisin de femmes, qui sont pratiquement esclaves quand elles reviennent, et la situation se généralise dans toute l'Asie, parce que le problème est le même en Chine, le problème est le même au Pakistan, au Bangladesh, etc. Donc là ça devient et une femme, je crois, c'est dans les 340 €, je crois, c'est vraiment rien, quoi.
ça dépend peut-être de la femme, je sais pas.
Ah, j'ai trouvé ça dans Miss Fantastique, hein.
Ah oui, c'est possible. J'ai pas tous les chiffres à vous en tête.
Je crois que c'est 349 €.
La femme, alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont achetées, acheminées, achetées, donc aussi du Népal, souvent très jeunes d'ailleurs, qui sont donc c'est un double phénomène à la fois de paupérisation de certaines communautés, donc au Népal ou au Bangladesh ou ailleurs, dans certaines régions de l'Inde aussi, qui finissent donc par céder des jeunes filles, voilà, encore une fois, hein, comme du bétail. Et ça revient en fait, cette question de cette problématique du féticide, en fait, revient à cette question initiale qui est de dire, en fait, être une femme, c'est un problème en Inde. En tout cas, c'est considéré comme étant un problème. Donc, il ne faut pas faire de femmes, il faut faire des garçons. Et on en revient. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux qui est complètement indépassable tant qu'il n'est pas brisé. Avec cette idée que finalement, avoir une petite fille, c'est avoir un coût, parce qu'il va falloir la marier, puisque le système de dot est encore très important dans le pays, même s'il prend même s'il est officiellement proscrit, il prend quand même des détours divers et variés. Hein. On passe de la voiture à l'achat de terrain, à des bijoux. Enfin voilà, vraiment.
Il y a un beau proverbe, c'est en Inde, on dit que celui qui a une fille arrose le jardin de son voisin.
C'est exactement ça.
Ouais.
C'est exactement ça, avec cette idée qu'une femme de toute façon coûte. En plus, il faut en plus derrière qu'elle rapporte, derrière qu'elle fasse des enfants mal, si possible. Donc en fait, on perpétue cette idée-là, voilà, de façon vraiment constante. Et puis avec des villages entiers qui se sont complètement dépeuplés du fait de différentes migrations régionales, donc avec des régions très rurales où finalement les gens partent en fait dans les villes pour gagner leur vie. Et dans ces villages-là, comme il n'y a plus de femmes, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui.
Et voilà, ça file, on va faire une deuxième pause musicale, Cléa, avec un groupe à la fois breton et à la fois indien, qui s'appelle Nirman, et le titre c'est « Camel Steps ».
Mama, 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 mama
Toujours avec Cléa Chakraverty pour la voix de Sita et toujours avec ce même thème des violences faites aux femmes en Inde. Et il y a donc ce brave module, l'avocat qui entame un procès contre le dieu Ram. Il obtient malgré tout un débat télévisé qui servira de substitut de procès. Est-ce qu'on en est à une société de l'image en Inde où la télé prend le pas sur la justice constitutionnelle ?
Alors, on est dans une société de l'image extrêmement rapide, fébrile, nerveuse, à la Fox News aux États-Unis, et c'est une société de l'image qui a été beaucoup plus rapide et vivace, on va dire, par exemple, qu'en France. En revanche, l'idée donc d'un procès télévisé, c'est vraiment dans la fiction. On n'en est pas encore là, à ma connaissance, en tout cas dans la réalité. Il y a encore une justice qui est importante, qui avec un système de cour suprême qui est extrêmement bien implanté, qui a une vraie, qui vraiment joue ce rôle de contre-pouvoir en Inde, donc qui est une république fédérale, hein, il faut le rappeler, donc avec des cours qui sont un petit peu disséminées dans le pays et bien sûr des juges qui sont censés être impartiaux, même si ce système judiciaire est de plus en plus attaqué actuellement.
Les juges sont nommés par l'État?
Il y a des, alors je vais pas forcément rentrer dans le détail.
En gros,
je suis pas du tout spécialiste. Il y a des nominations, ouais, c'est ça.
Ouais.
Effectivement, et des désignations dans chaque État, et puis ensuite au niveau central également. Mais dans le provenir aux médias et aux réseaux sociaux, l'idée c'était un peu un pied de nez avec la cour, on va dire, médiatique, hein, justice populaire qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui ne s'embarrasse pas vraiment de la justice telle qu'on peut l'imaginer.
Oui, exactement. Et en plus, les réseaux sociaux sont très importants au niveau politique. Quand il y a des femmes qui se présentent aux élections, elles sont systématiquement... il y a aux dernières élections, il y a 95 femmes politiques qui étaient candidates. Elles ont été harcelées, mais de façon horrible, sur les réseaux sociaux. Dans 94% des cas pour les musulmanes et 59% pour les hindous. C'est-à-dire il fait pas bon non plus être une femme politique, même une femme connue.
Absolument, être une femme, donc on l'a bien compris, c'est assez problématique de base. Être une femme politique publique, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, vous ouvrez la voie à donc on disait tout à l'heure, aux trolls, donc au cyberharcèlement, du cyberharcèlement qui peut prendre des formes beaucoup plus graves, hein, si ce n'était pas déjà suffisant, d'intimidation qui sont donc verbales, physiques, du fait de pas pouvoir se déplacer dans certains lieux. Je pense, je l'ai citée parce que pour moi, elle est assez emblématique. C'est la journaliste Rana Ayoub, qui est une journaliste indépendante, qui écrit notamment pour le Washington Post et qui écrit aussi dans plusieurs médias indiens, qui est une journaliste donc comme son nom l'indique ou pas pour les Français, mais qui est de confession musulmane. Sur le papier, du moins, et qui est victime d'un harcèlement complètement démesuré parce qu'elle s'attaque de façon très frontale à l'autoritarisme du gouvernement, aux biais religieux fondamentalistes du gouvernement existant, parce qu'elle va faire des investigations sur des sujets qui concernent certains hommes politiques. Elle est la cible de mépris et d'attaques. Alors on peut ne pas être d'accord avec peut-être le ton de ses éditoriaux ou autres, mais rien ne justifie le harcèlement dont elle a été victime. Par exemple, l'incapacité de pouvoir sortir, on devait lui remettre un prix, il me semble, il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis, elle n'a pas pu sortir du pays.
Si c'était un homme journaliste qui écrive les mêmes articles.
Alors, je n'ai pas de chiffres en tête pour étayer que je vais dire, mais je pense que ce serait clairement moindre.
D'accord.
Le type de violence, en fait, des appels au meurtre, certes, il y a énormément de journalistes indiens qui le subissent. Et ils sont d'ailleurs, voilà, moi, j'admire tous les confrères et les consoeurs qui travaillent en Inde actuellement. En tout cas, ceux qui ne sont pas, on va dire, pro, à la botte du gouvernement, pour le dire vite. Mais quand voilà, une femme journaliste ou une femme politique, c'est appel au viol de vos enfants. Et c'est pas 10 personnes. C'est-à-dire qu'avec les trolls en Inde, on est sur des milliers et des milliers et des milliers de tweets, de messages Instagram, de harcèlement sur Facebook, enfin voilà, ou Snapchat, peu importe les réseaux qui sont utilisés, des boucles WhatsApp aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été amplifié avec les réseaux sociaux. La plupart des gens en Inde aujourd'hui communiquent principalement sur WhatsApp, en tout cas sur des réseaux sociaux. YouTube aussi, bien sûr, donc avec des diffusions de vidéos qui sont atroces, des montages photos. Enfin voilà, on peut imaginer le pire, en fait. Et c'est vrai que pour ces femmes-là qui ont le courage d'être publiques, de révéler leurs enquêtes ou en tout cas d'affronter l'opinion de façon aussi publique, c'est un véritable risque pour elles, pour leurs familles, pour leurs proches et pour les positions qu'elles défendent.
Et pourtant, il y a un moyen de lutte, ce serait le poids économique des femmes. Je disais tout à l'heure, elles effectuent 83% du travail agricole, enfin elles ont un poids économique certain, il y a des femmes. Pourquoi il y aurait un moyen de lutte là pour imposer quelque chose ?
Alors il y a des choses qui existent, par exemple ce qu'on appelle des quotas ou bien des schemes, enfin des modes de discrimination positive, on va dire pour les femmes en Inde, bien sûr. Il existe effectivement des qu'on appelle ça des welfare schemes, des programmes spéciaux, pardon, de rétribution, de microcrédit. Donc il y a beaucoup de choses qui existent en Inde, on va pas le nier, mais reste le fait que les femmes sont constamment situées dans ce plafond de verre. C'est-à-dire que même des femmes qui arrivent à des positions importantes sont toujours finalement confrontées à des choix drastiques. La famille ou le travail, faire les deux, ça devient de plus, c'est comme très compliqué. Lors de reportages précédents, je rencontrais des femmes cadres supérieures, vraiment à la tête d'organismes très importants, financiers par exemple, qui me racontaient s'être mariées très tard pour pouvoir avoir une carrière. Donc peut-être que ça a un peu plus changé aujourd'hui, mais et qui ont subi l'opprobre familial pour avoir fait ces choix-là. Donc il faut porter ça aussi, il faut porter le regard de la société, de l'opinion, y compris celui des autres femmes. Il faut pas oublier qu'en Inde, une femme qui n'est pas mariée, qui fait le choix de ne pas avoir d'enfants, qui fait le choix de vivre seule, en dehors des grandes villes, c'est encore plus compliqué que dans le monde occidental.
Ça me rappelle un petit peu le terrible drame des femmes japonaises.
Oui,
c'est un petit peu pareil.
C'est pas aussi fort probablement. C'est différent en fait. C'est simplement.
Il y a un nombre de suicides qui est absolument hallucinant au Japon, hein, chez les femmes.
Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que les femmes en Inde, pour ça aussi, souvent choisissent des carrières. Celles qui peuvent faire des études longues vont faire des carrières dans des villes qui ne sont pas leur ville natale, si elles le peuvent, puisqu'on a quand même. Comme je disais tout à l'heure, un poids sociétal qui est celui de la famille, mais aussi du village, du clan, de la famille étendue, on va dire. Et donc, il y a ce sentiment d'être constamment sous surveillance. Et pour échapper à ça, effectivement, c'est soit le poids économique, donc sortir, parce que financièrement, on y arrive, mais pour ça, il faut aussi avoir un capital de départ, ce qui n'est pas gagné du tout, soit espérer finalement de faire un mariage qui permettent de s'affranchir de certains codes parce que la famille va être plus ouverte d'esprit, parce que le mari, voilà, comme un peu dans mon personnage de Madou, est un peu emblématique de ça, un mari qui est un peu qui pense un peu différemment et qui trouve ça tout à fait normal que sa femme soit égale avec lui-même.
C'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné, mais il y en a. Il faut le reconnaître.
Ouais, dernier petit point, c'est un petit peu un phénomène général, je voulais dire, parce que on assiste à une progression des fanatismes religieux dans le monde, que ce soit au Brésil ou en Afrique avec les évangélistes. On voit ça avec l'élection de Bolsonaro, aux USA avec le Parti républicain qui est complètement hors du jeu démocratique, la Russie avec l'appui de l'Église orthodoxe. sur les agressions de Poutine au Moyen-Orient, en Israël. C'est un peu mal parti quand même.
Disons qu'il y a ce qu'on voit en Inde, qui est, parce que bon, l'Inde ayant énormément de religions en son sein, est assez représentatif effectivement du reste du monde, je dirais, alors sans vouloir trop faire généralité non plus, mais c'est des choses qui a une angoisse en fait, probablement liée à toutes les crises que nous traversons actuellement, et peut-être la plus importante étant la crise écologique, qui fait qu'il y a un besoin de repli sur ce qu'on connaît le mieux et de blâme sur ce qu'on ne connaît pas. Et pour l'Inde, ça a pris une dimension très très claire, avec un premier ministre et un gouvernement qui préfère blâmer finalement les difficultés sur en désignant des corps étrangers, mais des corps en fait existants complètement dans le pays, mais en les désignant comme étant l'étranger, et tout en vantant par ailleurs les mérites du capitalisme, de la réussite de soi, du développement économique, sans vraiment questionner finalement les empêchements, sans questionner les véritables enjeux. Et c'est un peu peut-être pareil effectivement au Brésil, ou dans moindre mesure dans beaucoup d'autres pays dans le monde. On voit aussi en Iran, hein, tout simplement,
oui.
Avec une facilité vers le repli communautaire et vers le fondamentalisme qui permet finalement de pas avoir de discussion, de ne se poser aucune question. On a des solutions toutes faites qui sont apportées sur un plateau par une interprétation du religieux, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de blâmer la religion en tant que telle, mais de d'instrumentaliser c'est la religion comme une sorte de solution un peu magique, pensée magique en fait à tous les problèmes qu'on peut traverser.
Voilà.
Et rien de simple que le fondamentalisme pour ça.
Il est bien évident qu'il y a des arrière-pensées politiques derrière tout ça, et que la religion n'est qu'un moyen, et tout ce qu'on vient de décrire là, ce n'est que la définition du fascisme, soyons clairs. Merci beaucoup Cléa Chakraverty. Je rappelle votre livre, c'est La Voix de Sita. Et puis merci pour cette heure où on a vu un peu le calvaire des femmes en Inde. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Bien au contraire. À bientôt, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Merci Patrick.